Merci Madame la Présidente. Donc, je me présente en deux mots, je suis donc socio-anthropologue et je travaille sur les migrations essentiellement intra-africaines. Donc j'ai travaillé à la fois à Côte d'Ivoire, au Sénégal et au Burkina Faso avec quelques... J'ai travaillé à Côte d'Ivoire, au Burkina Faso et au Sénégal avec quelques intrusions à côté Libye et côté Chine. Hier, on a entendu le terme délit de solidarité pour parler finalement de cette idée de pénaliser ceux qui pouvaient soutenir au passage des migrants. Ce matin, Philippe de Bricker a parlé de crise de la solidarité, cette fois-ci côté européen, donc on pourrait parler de déni finalement de solidarité. Et moi j'ai envie aujourd'hui de vous parler plutôt des recompositions des solidarités, donc au sein, je dirais, des communautés migrantes, en essayant d'interroger la notion, le concept de réseau migratoire, qui est souvent mis en avant finalement pour qualifier la majorité des migrations. Donc mon exposé s'articulera en quatre points. Dans un premier temps, je reviendrai rapidement sur ce qu'on entend par réseau migratoire. Ensuite, je poserai la question de la durée de vie de ces réseaux. Dans un troisième temps, j'essaierai de travailler sur les interactions qu'il peut y avoir entre ce qu'on appelle la migration spontanée et finalement la migration organisée. Est-ce qu'on passe de l'un à l'autre de manière mécanique ou est-ce que c'est pas un peu plus complexe que cela? Et enfin, je parlerai de l'essoufflement de certains réseaux, de certaines solidarités qui seraient électives au profit de nouvelles solidarités, alors je ne sais pas si le mot nouvelle est intéressant, en tout cas de solidarités plus circonstancielles, avant de mettre en avant aussi l'idée qu'on s'oriente aussi vers un processus d'individualisation de la migration et qu'il n'y a pas toujours des réseaux, il y a aussi ce que j'appelle la migration d'aventure, qui me semble-t-il est quelque chose à considérer. Donc tout d'abord, un rappel sur ces réseaux migratoires. Depuis plusieurs décennies déjà, ces réseaux constituent donc les angles d'approche privilégiés quand on parle de migration, quand on les étudie, et surtout dans les pays en développement. Le réseau migratoire étant donc entendu comme une institution sociale puissante, dont le rôle crucial a déjà été donc mis en valeur, mis à jour par de nombreux travaux de synthèse, je pense plus particulièrement à ceux produits par Skeldon ou encore Massé, les réseaux migratoires constituant donc pour ces auteurs le support le plus solide pour le maintien de flux migratoires. Donc réseau migratoire entendu là comme une infrastructure qui sous-tendrait finalement la majorité des échanges, les migrants ayant donc recours à ces réseaux à différents moments, différentes étapes de leur cheminement. Alors ça peut être en amont, on cherche un soutien d'un membre d'un réseau pour développer son projet migratoire, pour aider à identifier finalement les destinations ou bien encore les périodes propices où on peut passer ou on peut ne pas passer. Comment on peut aussi avoir une avance sur les frais de déplacement. Ce peut être aussi donc une aide de ce réseau pendant le voyage, pour accompagner, pour passer les frontières. Et ce peut être aussi donc sur le lieu de destination, une aide pour trouver un hébergement, pour s'insérer professionnellement. Des conseils aussi pour une bonne adaptation finalement aux exigences de la société d'accueil, du nouveau contexte sociétal dans lequel on arrive. Ces échanges peuvent aussi être aussi bien de matériel que de matériel, avec le pays d'origine, des renvois d'argent, des renvois d'informations, une fois finalement qu'on est installé en migration. Donc le réseau comprend une part d'organisation humaine en relevant tous les relais de la migration, des zones de départ aux zones d'arrivée, en passant donc par toutes ces espaces intermédiaires. Donc le réseau comporte un aspect proprement institutionnel, dans le sens où il est formé aussi de règles, d'un ensemble de règles, de pratiques de fonctionnement. Autre mécanisme à prendre en compte, c'est que les effets de réseau ne jouent pas seulement à sens unique. Autrement dit, on s'aperçoit que les employeurs peuvent aussi avoir intérêt finalement à passer par des réseaux migratoires pour se procurer une manœuvre au sein d'un réseau dont ils connaissent déjà les membres, dont ils ont déjà, je dirais, expérimenté la fiabilité, la compétence, pour les avoir donc déjà employés. C'est ainsi qu'il a été démontré qu'il y avait des villages, des régions entières qui pouvaient développer finalement un quasi-monopole sur certains types d'emplois. Je pense notamment aux jeunes bonnes de Dakar, originaires des régions de Casamance, qui sont recrutées de manière systématique. Donc si le réseau se fonde en priorité sur la fuite offerte par un compatriote de la même famille ou du même village, et correspond en quelque sorte à une institution d'origine locale, le réseau ne peut pas non plus reposer strictement sur une parenté proche, sinon, évidemment, ça offrirait un soutien limité, puisque la famille, elle n'est pas si élargie que ça. Et pour une autre raison aussi, c'est que dans un monde profondément inégalitaire, les institutions comme la famille ou l'ethnie, ou même la communauté villageoise, finalement n'ont pas nécessairement, contrairement à ce qu'on dit souvent, pour objectif l'harmonie ou la solidarité entre individus. Ces structures sociales peuvent aussi, à l'inverse, contribuer à l'élaboration, voire au maintien d'inégalités. Et comme Claudine Vidal, notamment une anthropologue française, l'a démontré, la solidarité africaine, qu'on met souvent en avant, c'est aussi un construit social, c'est pas un fait, et ça relève souvent une. Donc le réseau migratoire, comme d'autres réseaux, pour exister, s'appuie aussi sur ce qu'on appelle la force des liens faibles, comme l'a proposé Grand Métal, c'est-à-dire qui signifie concrètement qu'une relation secondaire dont dispose un individu, c'est-à-dire une relation de voisinage, ça peut être aussi des amis, des gens de la même classe d'âge, des corporations professionnelles, ou encore des appartenances religieuses. Finalement, toutes ces relations secondaires vont aussi être mobilisées par le migrant et pourront aussi fournir, je dirais, des possibilités d'expansion. Alors, on parle alors d'enrichissement des réseaux. Pour résumer, donc, les liens sur cette première partie, les liens de parenté étroite donc, vont impliquer davantage finalement de devoirs de réciprocité et davantage de pression, alors que les liens faibles et simples connaissances vont engendrer donc des solidarités qui seront donc moins contraintes et plus pénibles. Donc le réseau migratoire a pour objectif de faciliter la migration en réduisant donc, les coûts et les incertitudes qui lui sont liées. Donc le réseau est à la fois une ressource potentielle mais aussi une contrainte. C'est une ressource car on peut s'appuyer dessus, évidemment, pour mettre en pratique son projet migratoire, trouver un emploi, trouver un hébergement. Mais c'est aussi une contrainte dans le sens où faire partie implique aussi en retour un certain nombre d'obligations économiques, mais aussi d'obligations morales, comme ce qu'on appelle souvent le remboursement de la dette. Donc ce contrôle social a pour conséquence aussi de limiter finalement les marges de manœuvre de l'individu et leur entrée possiblement en contact avec des individus qui seraient extérieurs au réseau. L'idée suivante, si ces réseaux que j'essaie de définir existent et se tissent, il n'est pas sûr pour autant qu'ils soient durables. Dans les mêmes idées, il n'est pas non plus évident que les solidarités qui peuvent à un moment donné être convoquées par un individu pour créer ces réseaux et puis leur donner vie, résiste sur le temps long, soit à la dégradation des économies, soit à la concurrence avec des autochtones ou encore avec d'autres économies. Donc ce que je veux dire, c'est que les réseaux évoluent aussi dans le temps. Ils peuvent être saturés quand les migrants arrivent en trop grand nombre sur un marché du travail qui est déjà occupé et que les migrants installés n'ont pas finalement suffisamment de ressources pour épauler les nouveaux arrivants. Les obligations morales ne sont alors pas toujours suffisantes finalement pour permettre la perpétuation de ces réseaux. Je prendrai un exemple. Avec d'autres, je me suis intéressée à un moment donné aux migrants burkinabés qui étaient installés en Italie du Sud, dans la petite industrie. Et en fait, j'avais commencé à repérer l'amorce de ce réseau au milieu des années 90, alors qu'ils quittaient la Côte d'Ivoire, où ils étaient à l'époque chauffeurs, boys, chez des Européens ou même petits commerçants sur les marchés d'Abidjan. Et la situation, déjà en Côte d'Ivoire, commençait à se détériorer, et donc des Burkinabés avaient décidé de tenter leur chance en Europe, mais à partir de la Côte d'Ivoire. Et là, ils avaient pu bénéficier, alors je dirais que ce n'est pas des réseaux migratoires, mais c'est des réseaux de passeurs, qui eux-mêmes avaient été mis en place par des Sénégalais, et les Sénégalais ayant finalement saturé leur réseau de passeurs, cherchaient des Burkinabés ou des étrangers pour pouvoir les aider à passer sur le pays. Donc, après avoir travaillé dans un premier temps plutôt au sud de l'Italie, dans les champs de tomates, du côté de Naples, un certain nombre de ces migrants étaient finalement remontés vers le nord de l'Italie pour obtenir leur régularisation. Et là, il y avait donc un début de réseau qui avait pu se mettre en place, puisque ces Burkinabés qui étaient souvent de la même région, voire du même village, avaient progressivement fait venir donc en migration leurs frères, leurs beaux-frères, leurs femmes. Et comment je suis allée les rejoindre en fait il y a 5 ans, parce que j'ai suivi sur un temps long, je me suis aperçue que ce réseau, bien, au lieu de se densifier, finalement, bien, il s'était affaibli dans la durée. Les plus vieux n'avaient pas pu repartir comme ils l'avaient envisagé. Certains étaient décédés parce qu'ils avaient pris aussi des risques pour partir un peu plus loin. Les enfants étaient mis sur place, avaient grandi, étaient devenus italiens, parlant plus du tout le Lissa, qui était la langue du Burkina, et n'avaient pas du tout l'intention d'aller vivre au Burkina, ce qui fait qu'ils se sentaient étrangers aussi à toutes les structures associatives qui avaient été mises en place par leurs parents, et n'avaient pas du tout envie ni besoin de cotiser pour faire fonctionner ces associations. Et puis d'autres enfants, ceux-là, non scolarisés, étaient arrivés directement en Italie illégalement, et là n'avaient pas du tout, ne s'étaient pas du tout appuyés sur les réseaux migratoires mis en place par leurs parents, mais avaient procédé à des arrangements plus illégaux, et si bien que finalement les réseaux migratoires qui auraient pu être activés pour la circonstance ne l'avaient pas été, et que les migrants installés se sont retrouvés à devoir gérer l'arrivée de leurs enfants en situation illégale, qui n'avaient pas de formation, en sachant que tout ça pouvait aussi remettre en question leur propre présence sur le sol italien. Autre constat, ces têtes de pont de ce réseau n'ont pas réussi non plus à s'élever professionnellement dans les usines où ils travaillent, et se retrouvent aujourd'hui de plus en plus concurrencés par l'arrivée d'autres migrants, hein, d'autres émigrés, qui viennent cette fois-ci de l'Europe de l'Est et de la Chine, et qui sont prêts à accepter finalement des conditions de travail encore plus médiocres. Donc ces chefs de réseau ont mis beaucoup d'énergie à faire venir leur fratrie en Italie, et ils n'ont pas pensé à leur propre avenir, contribuant ou bien finalement de réinvestir plus individuellement au pays ou en Italie, ce qu'ont fait en revanche ceux qui sont arrivés plus tard et qui ont bien compris eux, vous avez tout intérêt à investir dans l'achat d'un appartement en Italie si vous voulez pouvoir rester pour l'Italie. Aujourd'hui, donc, ces chefs de réseau sont précarisés. Ils n'ont ni les moyens ni l'envie d'aider maintenant les autres à venir. Leur situation est donc devenue bien délicate. Et ce qui leur reste finalement, c'est le prestige d'avoir initié finalement en Italie ce réseau et d'avoir pu transférer aussi collectivement par le biais de la création d'associations villageoises de l'argent au village pour construire des équipements et, paraît-il, contribuer au développement. Ils sont donc obligés de faire croire que ces réseaux sont encore efficients, dynamiques, pour pouvoir conserver finalement leur prestige, même si par leurs actes, ils ont plutôt, les actions qu'ils mènent sont plutôt là pour fragiliser ce réseau plutôt que de consommer. Donc tout ça pour dire que je pense que les réseaux s'auto-entretiennent pas mécaniquement sur le long terme, quand les conditions ne sont pas réunies pour soutenir les processus. Et de même qu'il y a nécessité à rappeler la fluidité des identités migrantes, de la même manière, il me semble qu'il faut rappeler que ces réseaux doivent aussi être entendus plutôt comme des systèmes ouverts qui peuvent évoluer donc indépendamment des conditions dans lesquelles ils ont été créés initialement. Donc certains l'utilisent, d'autres connaissent. Troisième idée que je voudrais développer, c'est qu'il n'est pas non plus systématique que toutes les migrations dites spontanées, hein, les migrations pionnières, qui ont été identifiés par un certain nombre de chercheurs, évoluent systématiquement vers la formation de réseaux migratoires. On n'est pas dans ce schéma évolutionniste qui est très souvent quand même mis en avant. Là encore, les recherches restent liminaires, mais je ne crois pas qu'on puisse, sans vérifier, parler donc d'un passage qui serait mécanique de la migration donc, qui serait décidée individuellement à une migration plus organisée. Là, je prendrai aussi un exemple dans un travail que j'ai mené cette fois-ci auprès des migrants qui sont d'origine originaire du Mali, du Sénégal et de la Mauritanie, et qui ont fait fortune, ou en tout cas ont essayé de faire fortune dans le négoce du diamant, beaucoup plus au sud de l'Afrique, du côté de l'Angola, du côté de la RDC et de l'Afrique du Sud. J'ai montré comment ces départs en migration s'apparentaient beaucoup plus à ce que j'ai appelé une aventure individuelle. J'ai essayé d'introduire la notion de migration d'aventure, qui, à mon avis, doit aussi être prise en compte et qui permet de revisiter peut-être ces catégories de migration économique et politique. Donc, ces migrants, qui sont souvent des cadets sociaux, ont fui leur village d'origine et sont souvent partis finalement sans demander l'avis de leur famille. Leur migration correspondant plutôt à un désir d'émancipation, à un rejet donc de certaines contraintes, que qu'elles soient familiales ou qu'elles soient aussi statutaires, parce que ceux qui sont partis de ces régions étaient souvent dans ces sociétés ce qu'on appelle des castés ou des captifs, hein, donc des gens qui souhaitaient peut-être ponctuellement remettre aussi en question ce statut grâce à un détour par la migration. Et on s'aperçoit que Leur départ trahissait surtout bon, une soif vraiment répressible de découvrir de nouveaux horizons. Donc il y a cette idée finalement de désir d'ailleurs, mais aussi désir d'altérité, je pense qu'il faut prendre en considération. Donc si ces migrants partis de manière individuelle ont fait venir par la suite, quand ils étaient bien installés, quelques frères pour se faire aider dans leur entreprise ou accroître leur surface financière, on ne peut pas dire pour autant qu'ils ont mis en place un véritable réseau familial. On s'aperçoit qu'à l'inverse, les accords étaient très ponctuels. Les associations semblaient plutôt d'ailleurs fonctionner entre des pratiquants qui appartenaient à la même classe d'âge plutôt qu'à la même fratrie. On ne peut pas dire que cette migration regroupant des aventuriers ait débouché sur la mise en place d'un réseau migratoire structuré. Leurs compétences à la fois professionnelles ou relationnelles n'ont pas profité ni à leurs enfants, ni à d'autres candidats à l'immigration. A l'inverse, je dirais que cette expérience est en quelque sorte dissipée, perdue en cours de route. Il n'y a pas eu de transfert de compétences, il n'y a pas eu d'accumulation. Et les enfants diamantaires sont très rarement devenus des diamantaires. Et tous ceux qui se sont lancés finalement dans le négoce du diamant dans les années 90-2000 ont tous recommencé à zéro. C'est-à-dire, ils ont commencé comme ce qu'on appelle diggers, creuseurs dans les mines, avant de devenir petit à petit, progressivement, intermédiaires dans cette filière. Et compte tenu de la concurrence très forte aussi qui existe aujourd'hui dans cette filière, hein, concurrence des Russes, concurrence des Libanais, des Juifs, sur le marché du diamant brut, un marché mondial du diamant brut, eh bien, ces derniers commerçants qui sont arrivés sont beaucoup plus précarisés que ceux qui étaient arrivés il y a une vingtaine d'années, et ne pouvant pas non plus bénéficier peut-être de ces régions, en tout cas n'ont pas réussi dans cette profession. Donc ce que je veux dire, c'est que la migration qui est engagée comme ça de manière pionnière, ou de manière plus ou moins spontanée, même si je n'aime pas ce terme spontané, je laisse à croire que la migration se déroulerait finalement en dehors du monde. Alors, dans tous les cas, les migrants qui partent, même s'ils partent seuls, sont très bien informés sur les dangers et les opportunités qu'ils peuvent rencontrer en chemin. Mais en tout cas, cette migration qui n'est pas structurée en réseau peut aussi alimenter une nouvelle migration. Sauf que peut-être que cette migration qui n'est pas organisée, qui n'est pas située en dehors des réseaux, a certainement un coût, je dirais un coût plus élevé pour les migrants. Il suppose des capacités supérieures finalement à absorber ce qui se passe, à saisir le hasard et peut-être aussi à produire davantage de violence. Le quatrième et dernier point que je voudrais aborder, en Afrique, donc depuis la fin des années 90, alors que les plans d'ajustement structurels sont systématisés, les réseaux migratoires donc fondés sur ces solidarités obligées dont j'ai parlé, c'est-à-dire familiales, ethniques, villageoises, sont aussi essoufflés et on s'aperçoit qu'en complément, il y avait de nouvelles solidarités moins électives, plus horizontales, qui se sont déployées. Les conditions d'hospitalité, finalement, en migration, se sont aussi transformées, avec donc un essoufflement, un affaiblissement des solidarités anciennes, et avec la mise en place de nouveaux systèmes. Quand je dis essoufflement, on s'aperçoit, par exemple, qu'au Cameroun, des migrants sénégalais et maliens qui cherchaient à continuer la route pour aller au Gabon, eh bien, se sont retrouvés complètement précarisés, ne pouvant absolument pas compter sur ceux qui étaient déjà installés. Il y a des systèmes qui existaient, ce qu'on appelait les sous-doux, c'est-à-dire des chambres, qui finalement constituaient un des piliers de la solidarité, notamment sénégalaise et malienne en migration, et qui permettaient d'héberger gracieusement les nouveaux arrivants. Eh bien, on s'est aperçu que ces structures-là se sont essoufflées et ont même se sont transformées. Aujourd'hui, on ne parle plus de tous. Partout, on parle de foyers, et on voit que dans ces foyers, en fait, il y a aussi, en quelque sorte, une professionnalisation des intermédiaires, avec des gens qui prennent en charge ces foyers, qui sont ce qu'on appelle les sherman, et qui attendent aussi en retour, c'est des relations de dons et contre-dons, ce qui n'est pas forcément le cas par le passé. Autre système aussi, ce sont les pistes et des cotisations aussi qui permettaient le terme, c'est « tout seul », c'est-à-dire c'est un système de cotisation quotidienne qui est souvent mis en place par les migrants quand ils se retrouvent dans un lieu, dans un foyer, pour permettre d'organiser des repas, que ceux qui viennent d'armée qui n'ont pas d'argent permettent à ceux qui sont là pour un moment, s'arrangent entre eux. Et là, ces systèmes aussi commencent à s'étouffer. Alors, ils ne sont pas complètement... ils existent encore, mais c'est vrai qu'ils prennent des formes différentes. Récemment, là, avec des collègues, nous étions au Maroc, et bon, on s'est aperçu que ça continue à exister, mais sous une autre forme. On voyait que des migrants qui étaient pourtant en situation extrêmement précaire, qui s'apprêtaient à partir, enfin, qui essayaient de partir vers l'Europe, hein, les migrants maliens ou sénégalais, eh bien, avaient quand même réussi à cotiser pour s'acheter un mouton pour la Libye. Donc, quand même, il y a des systèmes qui se mettent en place, même si ça fonctionne beaucoup moins bien que par le passé. Alors, pourquoi ça marche moins? C'est aussi parce que, par exemple, les familles qui sont restées au pays deviennent aussi de plus en plus réticents finalement à l'idée de financer le billet d'avion, le visa ou la fausse carte d'identité de leurs enfants candidats à l'immigration, puisque les aînés finalement n'ont plus l'assurance que leurs cadets financeront en échange leur propre retraite. Donc on voit un peu comment, ne pouvant plus compter finalement sur cette réciprocité, eh bien les plus vieux ont tendance à plus vouloir ou non plus financer et donc inciter leurs enfants à autofinancer leur départ, ou encore à faire pression plutôt sur ceux qui sont déjà partis et qui sont déjà arrivés de l'autre côté pour obtenir cette statut. Dans les pays d'accueil ou de transit, les signes d'essoufflement de ces systèmes d'entraide sont aussi encore plus visibles. Et on s'est aperçu que, par exemple, des Maliens qui étaient installés là, au Cameroun avaient incité leurs frères, qui avaient sollicité donc un appui financier, à se rendre d'abord par leurs propres moyens en Côte d'Ivoire, où là, en Côte d'Ivoire, à mi-parcours, il y avait un mandat qui les attendait pour finalement continuer la route voilà, au Cameroun. Donc c'était une manière, en quelque sorte, d'éprouver leur motivation et de limiter aussi les risques. On a retrouvé ce même système aussi à Tamanrasset, en Algérie ou à Niamey, où certains, finalement, là, attendaient plutôt qu'un parent ou un compatriote déjà passé en Europe puissent les sortir de leur mère via un transfert via Western Union. Donc, quand ces solidarités obligées, finalement, ne peuvent plus jouer totalement leur filet de sécurité, les réseaux, je vous disais, plus ouverts se développent, fondés notamment sur la nationalité, la religion, le voisinage ou l'activité professionnelle. Alors là, j'ai encore un strapide à Sophie Baba, qui est là, qui fait d'autres choses, mais qui a aussi travaillé là-dessus et qui a montré comment, en transit communautaire, eh bien, des migrants, soit sénégalais ou guinéens, débarquaient donc à Niamey démunis financièrement parce qu'ils étaient arrivant directement de leur pays ou parce qu'ils avaient été refoulés d'Algérie ou de Libye, pouvaient être accueillis dans ce qu'on appelle la dernière amourite, qui est une... pouvaient être nourris, logés quelque temps dans ces lieux. C'était un peu des lieux de ressourcement, hein, ce qui parlait d'une des dernières bombes mourir avant l'Europe. Et on voyait aussi comment le religieux pouvait jouer un peu l'important. Autre solidarité aussi circonstancielle qu'on peut repérer, Mehdi en a parlé tout à l'heure, c'est aussi ce qu'a montré Claire Escoffier au Maroc, qui a montré comment des femmes seules avec enfants, c'est des femmes qui arrivaient là de l'Ouest, qui se retrouvaient avec leurs enfants sans leur mari, parce que le mari avait été intercepté ou était mort en cours de route, et bien ces femmes faisaient alliance circonstancielle avec les hommes, pour faire famille finalement, pour pouvoir sécuriser aussi leur petite famille et continuer leur vie. Et ces travaux finalement font écho aussi à, je pensais, un roman de Marine Diagne, peut-être que vous connaissez, qui s'appelle Trois femmes puissantes, et dans lequel elle montre comment l'héroïne, qui s'appelle Rali Demba, en fait, qui est un peu obligée de partir en migration, et bien elle aussi, en chemin, a dû prendre un compagnon de route pour pouvoir finalement résister à tout ce qui pouvait lui arriver. Donc, c'est quelque chose d'intéressant côté alliance circonstanciée. Donc, on s'aperçoit que l'insécurité pousse finalement les migrants à entrer rapidement en contact avec l'autre, donc ils vont être complètement très très différents de lui, et à constituer ces associations qui seraient donc éphémères. Donc, on a parlé effectivement de communautés d'itinérance ou encore de communautés de circonstances. Je trouve que c'est des termes intéressants à mettre en avant qui permettent justement de revisiter certaines frontières. Pour conclure, je dirais que cette intervention avait pour ambition de montrer d'une part que toute l'immigration ne débouche donc pas nécessairement sur la création de réseaux migratoires, sachant que ces différentes formes migratoires qu'on peut repérer peuvent très bien cohabiter sans se fondre l'une dans l'autre. Et donc l'idée, c'est de ne pas se laisser piéger par des perspectives évolutionnistes qui, je pense, seraient pas intéressantes ici, que ces réseaux peuvent aussi donc, se déliter. J'avais pas pour ambition, évidemment, de mettre en avant la fin des réseaux migratoires, la fin des solidarités, comme certains ont parlé, la fin des territoires, la fin des immigrés. Hein, je ne suis pas du tout non plus dans cette perspective-là. Mais c'était montrer aussi que cette situation des pionniers hors réseau connaît aussi un regain d'activité et de visibilité, et que la figure de l'aventurier, me semble-t-il, en est la figure la plus emblématique, puisqu'au-delà des problématiques économiques ou d'insécurité politique, on voit bien quand même que ce sont ces envies de liberté, d'émancipation, qui justifient quand même un nombre croissant de départs en migration, et que l'envie de vérifier par soi-même si le monde ressemble à celui que les médias présentent, je pense que c'est quand même intéressant à prendre en considération. Et cette migration aussi doit être considérée comme une expérience morale, à l'ère précisément de la globalisation de l'être. Je vous remercie.